Bonjour, vous écoutez Coming In, Coming Out, un podcast d'Alice Le Guiffant. On y parle, entre autres choses passionnantes, de coming out à soi-même et au reste du monde. Bonne écoute. Bonjour Aude.
Bonjour.
Merci de m'avoir invitée chez toi pour cette interview.
Avec plaisir.
Et du coup, ben, comme d'habitude, qu'est-ce que tu aurais envie de nous raconter aujourd'hui ?
J'aurais bien aimé arriver... Je vais essayer de retracer un peu mon parcours, ce qui n'est pas toujours évident. Du coup, je pense qu'il faudrait déjà commencer par donner le contexte familial dans lequel j'ai grandi. Moi, j'ai grandi dans une famille catholique, pratiquante, dans un petit village... Enfin, c'est pas un village, c'est une petite ville. Dans une petite ville vers Lyon. On était 4 enfants. J'avais jamais entendu parler d'homosexualité pendant très longtemps. C'est hyper dur pour moi de me rappeler à quel moment... Enfin, il n'y avait aucune présence homosexuelle autour de moi, dans ma famille, dans mon entourage, quand j'ai grandi. Même à l'école, enfin, j'ai tout fait, mon école, mon collège, mon lycée, dans cette ville. Qui est très petite, enfin 10 000 habitants, donc j'avais pas beaucoup de représentativité autour de moi, en tout cas s'il y en avait, je le savais pas. Donc la première fois, enfin j'ai essayé de me rappeler un peu mon premier souvenir de d'évocation de ça avec mes parents. Je me rappelle qu'une fois dans la rue, et je me rappelle pas l'âge que j'avais, mais je pense que je devais être au collège, en début de collège, franchement je sais pas, j'étais avec ma sœur et ma mère. Il y a un monsieur qu'elle croise, mais genre vraiment pas loin de chez nous, et à qui lui fait un grand sourire en lui disant bonjour très gentiment, et je connaissais pas ce monsieur. Elle lui répond très gentiment aussi, et après elle nous dit, je me rappelle qu'il y a eu cette phrase, mais c'était genre, cet homme, il vit avec un homme, mais nous on cautionne pas ça. Mais je me rappelle pas exactement les paroles, mais il me semble que c'était ça les mots, et ça voulait dire ça, et du coup j'avais eu un peu ce truc dans ma tête en mode genre, alors ça c'est possible, ça existe, mais en même temps c'est pas ce qu'il faut faire, mais en même temps ils sont quand même sympathiques avec lui, donc enfin ma mère a l'air de quand même bien l'aimer, enfin c'est un ami, je l'avais jamais vu, donc et je l'ai jamais trop revu après, je sais pas qui c'est cette personne, mais ça avait l'air d'être quelqu'un qu'ils apprécient quand même, à qui ils éprouvent de la sympathie, mais... Un truc de genre, on cautionne pas, on n'est pas d'accord avec ce mode de vie. Donc c'était un peu là la première fois où je me suis rappelée en avoir entendu parler. Et après, il y avait... plus tard, au lycée, je me rappelle qu'il y avait une fille dans le lycée que le bruit courait, qu'elle était lesbienne. Et c'est très très drôle parce que c'était une fille qui était pas dans ma promotion. Qui était pas à mon âge, du coup moi j'étais plus grande. Je me suis rappelée que j'avais passé énormément de soirées à attendre après les cours sa mère avec elle, qui attendait sa mère en voiture, qui finissait tard le travail. Moi j'habitais à 10 minutes à pied du collège, donc c'était au lycée. J'étais à 10 minutes du lycée quoi, donc je pouvais rentrer quand je voulais chez moi à pied et j'attendais avec elle alors que c'était quand même une amie d'un gars que je connaissais. Mais c'était trop bizarre. On parlait énormément et à ce moment-là, moi, je me rappelle lui avoir dit, elle m'avait confié qu'elle aimait les filles et je lui avais dit, moi, ça me pose vraiment aucun problème, vraiment. Mais par contre, moi, c'est pas mon cas. Je m'imagine pas du tout avec une fille. Enfin, je me rappelle avoir vraiment dit ça puis avoir eu cette réaction en mode genre, oui, moi, il y a pas de souci. En tout cas, je juge pas quoi. Très bizarre comme réaction quand même. Donc voilà, j'ai aucun doute de. Enfin, c'est les seuls moments où je me rappelle avoir eu un lien avec l'homosexualité jusqu'à mon lycée, quoi. Genre, à ce moment-là, je suis persuadée d'être hétéro, la question ne se pose pas. C'est juste pas possible. C'est pas envisageable. Ça ne peut pas me concerner parce que, dans ma tête, à un endroit, je pense que c'est vraiment le fait que mes parents pensent ça, que moi, du coup, je l'ai fini par le penser, mais je les ai jamais entendus dire ça. Mais je me disais, si on est homosexuel, c'est que forcément on a eu un truc dans notre passé, dans notre enfance, qui s'est mal passé. On a un petit trauma quelque part, je me disais ça. Et du coup, comme moi j'ai eu une enfance très heureuse, où j'ai été très aimée par mes parents, je me disais que ça ne pouvait absolument pas m'arriver. C'était Très bizarre comme réflexion. Donc voilà, je pensais pas, ouais, que ça pouvait me concerner. Du coup, c'était tellement pas envisageable que j'ai mis énormément de temps à le réaliser. Et je suis tombée amoureuse de garçons au collège. Mais ouais, genre je dirais deux. Enfin, il y avait vraiment pas beaucoup d'histoires. Puis c'était jamais trop réciproque. Puis à un moment donné, ça a été un peu réciproque avec un garçon. On s'était jamais dit. Puis j'ai compris quand c'était trop tard qu'en fait, oui, il y avait eu un petit truc, mais ça s'était jamais passé. Et après, au lycée, rien, quoi. Genre, j'avais un peu l'impression de choisir des garçons avec qui j'allais tomber amoureuse, parce que c'était un peu, mais je tombais pas vraiment, j'ai pas l'impression de tomber vraiment amoureuse. J'ai un peu, genre, je choisissais, je me disais, bon, bah, faut quand même être amoureuse, j'ai envie de vivre ça, okay. Et je conscientisais pas que je faisais ça, mais je me disais, bon, peut-être un tel, il est quand même sympa, il est gentil, puis, a fortiori, maintenant, je pense que la personne qui au lycée sur laquelle j'ai crushé, c'était, je pense clairement que maintenant il est homosexuel, hein, vraiment, je pense que voilà. Et voilà, et je traînais beaucoup qu'avec beaucoup beaucoup avec des filles. Tout le collège, j'étais que dans un groupe de filles. Il y avait un garçon qui est gay, ça je le sais maintenant. Et du coup, j'ai réalisé que très tard que j'étais lesbienne. Je m'en suis rendu compte quand j'étais à la fac. Enfin, première année de fac. Moi, je suis encore très ancrée dans la religion. J'ai reçu cette éducation-là de mes parents et j'ai jamais trop été en contre avec ça. On allait à la messe tous les dimanches, on faisait des prières ensemble à la maison. Je me rappelle quand on était tout petit, on avait un peu ce rituel tous les soirs, on faisait une prière ensemble. Parfois, ça s'est un peu arrêté, puis ça a un peu repris de temps en temps, on refaisait une prière ou je sais plus. Des fois, on faisait un bénédicité avant de manger. Enfin, c'était quand même très ancré. Et du coup, moi, j'étais quand même beaucoup là-dedans. Et j'ai participé à une troupe de théâtre catho. Parce que à l'époque, je voulais devenir comédienne. Et pendant l'été, pendant les vacances scolaires, il y avait une troupe de théâtre qui faisait un tour de France avec une pièce de théâtre sur Sainte-Thérèse de Lisieux. Et on venait représenter un peu l'histoire de cette sainte. Et dans cette troupe de théâtre, j'ai crushé sur une fille. Et c'est là mon premier crush sur une fille, je pense. Enfin, en tout cas, tous les autres avant, je les avais pas du tout conscientisés. Et du coup, cette fille, je la remarque direct, cheveux courts, elle est pas très grande, et elle a une énergie très masculine, enfin... Clairement, moi, j'ai réalisé vraiment, après avoir compris que j'étais lesbienne, qu'il y avait beaucoup de personnages que j'ai vus à la télé ou que j'ai vus en présentation où je me ressentais une affection énorme envers ces femmes-là, et qui, en fait, sont clairement des femmes qui étaient lesbiennes, en fait, enfin, qui avaient une apparence garçon manqué, ce qu'on appelle garçon manqué, qui est vraiment une mauvaise expression, mais, et qui, pour le coup, qui dégageait quelque chose que ça se voyait, que je pense qu'aujourd'hui, clairement, on se dirait, bon, bah, ça se voit qu'elle est lesbienne, machin. Et là, moi, je ne m'expliquais pas une profonde affection pour ces personnes, d'un coup, que je voyais comme ça. Et je sais pas, je me rappelle qu'une fois, il y en avait une dans The Voice et j'avais trop envie qu'elle gagne parce que, et je sais pas pourquoi, parce que je la connaissais pas, mais c'était elle, je me disais, elle, j'ai trop envie qu'elle gagne, je l'aime trop et tout, mais. Je pense que c'était vraiment juste ça et je conscientisais mais rien. Et là, pour dire à quel point je conscientisais rien et que j'avais pas envie de le faire, c'est que quand j'ai crushé sur cette fille, ça a été réciproque. Elle était ouvertement lesbienne parce que elle me parlait de sa petite amie qu'elle avait à l'époque. Ce qui est trop bizarre, c'est qu'on a jamais, enfin, on a un peu, on s'est rapprochés parce que on dormait comme on sillonnait la France, on dormait souvent par terre sur des tapis de sol dans nos duvets. On était hébergés à droite à gauche, soit chez des gens, soit dans des paroisses, soit chez des sœurs. Et je me rappelle que les nuits, on se faisait des petites caresses, on dormait toujours à côté. S'il y avait un lit double, on monopolisait le lit double direct. Mais il se passait pas grand chose à part des petites caresses. En plus, elle avait une copine. Enfin. Mais moi, à ce moment-là, je ne réfléchis pas à ce que je fais. J'aime ce qui se passe, et du coup, je le vis. Mais je ne me dis pas, ah, je suis en train d'avoir une relation amoureuse, peut-être, je suis amoureuse d'une fille, je ne me le dis pas. C'est qui est hyper dur à expliquer, j'espère qu'on va arriver à le comprendre, mais c'est que je ne mets pas de mots sur ce qui m'arrive et je le vis parce que j'aime bien. Voilà. Et je mets derrière moi. Et donc, elle m'invite un peu chez elle pendant d'autres vacances. Là, c'est pareil. C'est très ambigu, notre relation. Enfin, on est quand même très, très, très proches. Et je crois qu'entre-temps, elle avait quitté sa copine. Enfin, voilà. Et à un moment donné, je repars de ses vacances chez elle et elle m'envoie un message en mode « Est-ce qu'on sort ensemble ?» Et du coup, je lui dis « Bah, ok. » Et ça a duré 3 jours parce qu'après cette officialisation de « genre on sort ensemble », j'ai réalisé que bon, enfin, elle était hyper jalouse. Moi, c'était pas du tout mon cas. On était à distance. Enfin, ça allait pas du tout marcher. Et du coup, cette histoire a duré 3 jours officiellement, mais il y a eu beaucoup, beaucoup de choses avant qui ont duré pendant plusieurs moments où on a fait nos troupes de théâtre ensemble, le parcours, un peu s'inviter l'une chez l'autre, etc. Et du coup, à partir de ce moment-là, même si j'ai vécu un peu ces trucs-là, je ne me dis toujours pas que je suis attirée par les filles, quoi. Je me rappelle qu'en arrivant à la fac, il y avait... aussi une fille à la fac qui me plaisait comme ça, mais que je connaissais pas, que je n'osais pas approcher, mais que je cherchais beaucoup du regard, et je me posais la question, mais pourquoi je suis obsédée par cette fille? Enfin, pourquoi j'ai envie de la voir? J'avais vu qu'elle arrivait par tel tram, du coup, tous les matins, je checkais ce tram, est-ce qu'elle sort en même temps? Est-ce que je vais la revoir? Alors que je la connaissais pas, je lui avais jamais parlé. Du coup, je me trouvais hyper bizarre, je me disais, mais qu'est-ce qui t'arrive? Enfin, c'est super bizarre, c'est juste parce que tu la trouves jolie que tu vas, genre, aller attendre tous les matins devant le tram, voir si elle est là, enfin, checker si elle est là du regard, voir si elle est pas là dans la cour, je sais même pas dans quelle section elle était, de quelle fac, enfin, on avait aucun ami en... Enfin, de notre fac, mais comme il y a plusieurs départements, je sais pas. Et du coup, je savais pas. Et je me rappelle que c'était une période, je pense que c'était ma première année de fac, où voilà, où il y a eu le truc avec cette première fille. Et en parallèle, il y a eu cette fille-là où je ressentais de l'attirance, très clairement, mais je n'osais pas me dire que c'était de l'attirance. Et je me rappelle d'un moment donné, j'ai eu un déclic. En fait, ça me perturbait, je me disais non, je peux pas faire ça, enfin, je peux pas, enfin, c'est bizarre, c'est pas normal. Et du coup, je me disais, j'arrête et tout ça. Puis ça me rendait pas heureuse de me restreindre comme ça. Et du coup, je me suis dit, viens, vois ce que ça donne si tu vis ce que tu ressens et que, qu'est-ce que c'est? Essaye de voir ce que c'est. Et là, j'ai réalisé que, ouais, j'étais quand même, très attirée par cette fille, que ça prenait beaucoup de place, et que c'était peut-être, ben, je sais pas si à ce moment-là je me suis dit que ça pouvait être, genre, vraiment un crush amoureux, hein. Mais je me suis dit, autorise-toi. Déjà, je me rappelle d'un moment où je me suis dit, autorise-toi, et c'était à ce moment-là. Et en deuxième année de fac, là, j'ai rencontré vraiment, je dirais, ma première copine officielle, du coup, où ça a duré 2 ans. Et c'était une amie une de mes meilleures amies de la fac, et c'était sa meilleure amie. Et là, ça a été vraiment un amour réciproque où pendant 2 ans, on a tout découvert ensemble, où j'ai compris que voilà, que j'étais amoureuse de cette fille, et on s'est mis ensemble. Enfin, là, c'était clair qu'on était ensemble, qu'on était amoureuses. Mais je crois qu'à ce moment-là, je mets toujours pas le mot lesbienne, je crois que j'aime pas ce mot en plus à l'époque. Et du coup, je lui dis. Je sais pas comment on se définit, mais je crois qu'on réfléchit pas trop, on est très heureuse. Et je me rappelle l'avoir. Du coup, on va peut-être parler de coming out, maintenant on y vient. Mais l'avoir dit à une super amie qui était une amie du collège, à qui je lui dis. Ça y est, j'ai quelqu'un, mais c'est trop bizarre. Elle me dit, c'est quoi qui est bizarre? Je dis, ben, c'est une fille. Elle me dit, ben, c'est pas bizarre du tout. Et ouais, j'étais très soulagée, mais en même temps, je savais qu'elle allait sûrement avoir ce regard-là, parce que c'est vrai que ça, c'était aussi, hein, du coup, un autre point où j'avais quand même eu vent de l'homosexualité avant, c'est que quand on était au collège, justement, elle m'avait dit que sa sœur avait une histoire avec une fille. Et moi, à ce moment-là, je me rappelle avoir jugé sa sœur dans ma tête. Je me rappelle avoir me dit « Ouais, elle doit pas être hyper bien dans sa vie, sa sœur. » Un truc un peu violent comme ça, je m'étais dit un truc. Mais je lui avais pas dit, évidemment, mais dans ma tête, j'étais clairement homophobe. Et du coup, Ouais, je dis à cette amie, je le dis à mes autres amis. Et bon, il n'y a pas de problème avec mes amis. Je sais que pour une, c'est un peu... Enfin, je sens que c'est pas l'enthousiasme, mais c'est pas... Il n'y a pas de jugement. Et au bout d'un an, avec cette copine-là, je me dis, ah, c'est hyper sérieux, c'est beau ce qu'on vit. Je suis hyper heureuse. Je vais le dire à mes parents. Enfin, il faut que je leur dise. En fait, j'étais épuisée de leur mentir. Ça faisait un an que j'habitais à Lyon et par moments, j'allais chez elle, par moments, elle était chez moi, par moments, on faisait des trucs ensemble. Et quand je racontais ma vie à mes parents, je faisais toujours des détours pour pas parler d'elle. Et je me disais, putain, c'est trop bête parce que je suis sûre qu'ils l'aimeraient beaucoup. Je sentais que ça pouvait bien passer le contact. Je me suis dit, je savais qu'ils allaient mal le prendre. Je savais que ça allait pas être une bonne nouvelle pour eux. C'était évident parce que là, on est en 2014, dans cette histoire, au moment où je sors avec cette fille. Et il y a eu 2012, il y a eu la manif pour tous, mais mon père, il a été hyper actif pendant ce moment-là pour aller manifester. Je me rappelle que je recevais des mails de mon père qui faisait des mailing lists pour aller dire « Attention, faut pas détruire la famille, c'est dangereux ce qui se passe en ce moment, il faut aller manifester. » Et il avait des grosses revendications comme ça qui faisaient tourner à tous ses contacts, à tous ses mails. Et moi, je recevais ces mails alors que je sortais avec Aurélia. Et du coup, j'étais vraiment en mode genre « Ok ». Et c'était très bizarre parce que mon père, c'est quelqu'un que j'ai toujours hyper respecté, que j'ai toujours trouvé... C'est quelqu'un qui parle très bien, qui est très intelligent... avec qui j'ai toujours un peu rigolé, une bonne relation. Et très charismatique, je dirais. Enfin, et du coup, j'ai toujours pensé comme lui. Et en fait, il y a eu un peu ce moment où je me suis dit, waouh, là, on rentre en contradiction, quoi. Mais je suis encore très imprégnée par tout ce que mon éducation. Et je vais, ça c'est Aurélia qui me l'a rappelé, mais je vais à une manif pour tous, alors que je suis avec Aurélia à cette époque-là. C'est les débuts, je crois, de notre relation. Et je vais à une manif contre la PMA. Parce que je me dis, ok, le mariage, mais la PMA, non. Et du coup, je me dis, non, c'est pas bien, et tout ça. Et puis, je me rappelle que chez moi, il y avait des livrets de bioéthique, de documentation contre la PMA, contre... Donc, j'avais que les arguments d'un côté. Et du coup, je pensais comme mes parents, et je parlais comme eux, quoi, du coup. Mais du coup, voilà, je me rappelle qu'en allant à cette manifestation, j'ai pas marché sur la route, j'ai marché sur le trottoir, sur le côté, parce que j'avais en même temps honte d'être là, j'avais peur qu'on me voie. Donc c'était très bizarre, parce que en même temps, je me sentais pas exactement à ma place. J'avais un peu l'impression de faire un truc pas bien. Et en même temps, enfin, c'était la contradiction dans mon cerveau total.
Paix en deux de... Enfin, ça va être affreux.
Ouais, en fait, c'était une longue période où j'étais pleine de contradictions. Et j'étais...
Déchirée.
J'étais déchirée parce que je sentais que je faisais quelque chose de pas bien en étant avec Aurélia. En même temps, c'était quelque chose qui me procurait énormément de bonheur. Et vraiment, je pense que je suis trop fière de mes premières fois avec elle, parce que ça a été petit à petit, et que on a eu une découverte de la sexualité aussi ensemble, de l'amour ensemble, de ce que c'est que d'avoir une relation amoureuse. Ça a été très beau. Et du coup, je suis trop contente parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'hétéros qui ont des premières fois, et de lesbiennes aussi sûrement, qui ont des premières fois catastrophiques, douloureuses, enfin, pas forcément chouettes. Et moi, je me dis, j'ai cette chance, ça se passe trop bien, enfin, j'ai vraiment eu cette chance-là d'avoir des débuts super beaux, quoi. Et doux, et à mon rythme aussi, parce que j'étais lente, du coup. Parce que, ah oui, parce que ça, en plus, je l'ai pas dit, mais j'avais aussi dans mes pensées, le fait qu'il fallait pas faire l'amour avant le mariage. Quand même, aussi, c'était là. Mes parents n'avaient pas trop parlé de sexualité avec nous, mais par contre, ils avaient beaucoup parlé de ça. Je me rappelle qu'ils nous avaient dit l'importance que c'est le corps, de pas le donner à n'importe qui, notre corps, l'importance de... Ouais, de ça nous appartient, et c'est nous qui choisissons à qui nous le donnons. Il y avait des choses intéressantes dans ce qu'ils disaient, mais il y avait aussi ce truc de genre, du coup, pas avant le mariage, c'est vraiment mieux, voilà. Et j'avais ça dans la tête, et je me rappelle l'avoir sorti à Aurélia. Je me rappelle pas très bien, mais elle m'a dit que je lui avais dit ça. Et en fait, ce qui était drôle, c'est que comme c'était un peu flou pour moi ce qui était coucher avec une fille, à quel moment on faisait l'amour ou pas. Du coup, bah, en fait, on l'a fait et c'était trop tard. Une fois qu'on avait fait, je me disais, bah, là, je sais pas si c'était ça ou pas. Du coup, je pense pas avoir déjà couché. Et en fait, c'est drôle parce que, du coup, je pense que ça m'a aidé au début à me dédouaner, à me dire, bon, en fait, non, j'ai pas fait l'amour avant le mariage. Et en fait, au bout d'un moment, je me dis, en fait, tu l'as déjà fait. Et c'est déjà fait, quoi. Enfin.
J'ai divergé, je crois.
On était à la fois où tu te retrouves à la manif pour tous.
Ah oui, voilà. Oui, oui, et du coup, ouais, c'est ça, c'est ce complexe entre tous ces sentiments-là qui sont très difficiles à vivre, à comprendre aussi. Et je me rappelle que du coup, voilà, je me dis, j'en ai marre de mentir à mes parents, je vais leur dire, je vais leur expliquer. Et en fait, j'ai une stratégie à ce moment-là, parce que je sais qu'ils vont mal le prendre, et je me dis, il faut qu'ils la rencontrent avant, sans savoir, et ils vont bien l'aimer. Du coup, après, ça va... En fait, j'avais trop peur que si je leur dis comme ça, je suis lesbienne, ils vont m'imaginer avec quelqu'un, ça peut être n'importe qui. Ils vont se dire, voilà, c'est une tarée peut-être qu'elle a rencontré, qui lui a mis ça dans la tête. Du coup, je voulais qu'ils voient que c'était quelqu'un de... qui connaissent un petit peu, qui voient que c'est quelqu'un de normal, entre guillemets, et qui n'a pas du tout l'air dangereuse, enfin, voilà. Et du coup, j'avais invité des amis à venir chez moi, je pense qu'on devait être 2, 3, 4, et elle faisait partie de ces amis-là. Il l'avait rencontré, il lui avait beaucoup parlé, il l'avait adoré. Et alors que j'avais 2, 3 amis qui étaient venus à la maison, ils prenaient tout le temps des nouvelles d'elle après. Et ils étaient tout le temps genre, ah, alors Aurélia, comment ça se passe, nanana. Et ils me reparlaient pas de mes autres amis, mais par contre, ils me reparlaient d'Aurélia. Et j'étais en mode genre, bon, je pense que le terrain est amorcé. Je vais pouvoir leur dire. Et j'étais très naïve, je me disais, je pense que ça va se voir mon bonheur sur mon visage, je pense qu'ils vont comprendre ce qui ne s'est pas du tout passé comme ça. Mais du coup, je leur ai dit un jour, c'était... Enfin, moi, à l'époque, du coup, j'étais partie à Paris déjà, habitée à Paris, et du coup, je revenais rarement à Lyon. Et quand je revenais à Lyon, bah, c'était par exemple pour les vacances de Noël. Donc j'ai dû leur dire à un moment donné, qui était très festif, très joyeux dans la famille, on a passé Noël, et passé Noël, je me suis dit, oh, là, c'est parfait, ils sont hyper heureux. C'est le moment de leur dire, parce qu'ils sont dans de bonnes conditions. Et du coup, je leur ai dit, j'ai réussi à les trouver que tous les deux aussi dans la maison, et à leur dire, faut que je vous parle. Et bon, on dit jamais ça dans la famille, donc ils se sont doutés qu'il y avait un truc qui allait pas. Et pour le coup, ils étaient à la cuisine, et là, je leur dis, bon, ben, je sors avec Aurélia. Ils m'ont dit, pardon. Ben, je sors avec Aurélia. C'est-à-dire. Et là, je me rappelle, ma mère, je crois qu'elle a dit, t'es en train de nous dire que t'es homosexuel. Et là, j'étais en mode genre... Alors moi, à l'époque, j'étais pas du tout en train de me dire ça. Enfin, du coup, j'ai répondu... bah, je sais pas, en tout cas, je sors avec une fille. Mais je sais pas ce qui peut arriver après. Je suis amoureuse d'une personne. C'est ça ce que je veux vous dire. Et voilà, en l'occurrence, là, c'est une fille. Et là, mon père, il a dit, faut que je m'asseye. Et là, ils se sont assis tous les deux. Et ils ont commencé à pleurer. Du coup, c'était très dur pour moi. Ils étaient, mais genre, abattus. Mais abattus comme jamais. Moi, j'ai toujours... Enfin, ce que je disais, j'ai une enfance heureuse, machin. Enfin, avec mes frères et sœurs, on n'a pas eu de problème avec mes parents. Ça se passait bien à l'école. On les a jamais déçus. Et là, je les ai vus, mais déçus de moi. Genre, blessés par moi. Et ça m'a... bah évidemment je pleurais aussi, enfin, c'était un moment qui a duré énormément longtemps et tout le monde pleurait, c'était le drama familial quoi. Et mon père a dit cette phrase qui bah je pense restera tout le temps dans ma tête, mais il a dit j'ai l'impression d'être dans un cauchemar. Et du coup j'étais en mode genre ah oui quand même. D'accord. Et là ils ont commencé à me poser bah toutes les questions que je pense on peut poser je sais plus dans quel ordre ils ont posé ces questions, mais ils m'ont très vite posé la question de genre, mais du coup tu vas vouloir avoir des enfants avec des femmes, tu vas les concevoir de manière pas naturelle, du coup est-ce que ça veut dire que t'aimes pas les hommes, est-ce que ça veut dire que tu t'envisages jamais avec un homme, est-ce que ça veut dire que est-ce que c'est notre faute, d'où est-ce que ça vient, à chercher à qui c'était la faute. à reprocher la faute sur le fait que je faisais du théâtre et que c'était sûrement parce que j'étais dans un milieu de théâtre que du coup j'étais comme ça, que je m'étais laissée influencer. Après, ils m'ont dit que je les avais trahis parce que j'avais amené Aurélia chez eux sans qu'ils sachent que c'était ma petite amie. Bon, elle est quand même venue alors qu'il y avait d'autres gens avec. Enfin, voilà. Elle avait dormi à la maison, mais mes amis aussi. Enfin, voilà. Moi, ma stratégie, c'était qu'il la rencontre. Il l'aimait bien. Il prenait beaucoup de nouvelles d'elle. J'étais en mode, bah, il l'aime bien, donc c'est bon. Ils vont peut-être plus accepter. Mais ils s'y attendaient pas du tout. C'était une énorme surprise. Et en fait, au contraire, enfin, ça les a pas aidés. Apparemment, de savoir que c'était Aurélia, ça les a pas, ça a pas adouci le truc, quoi. Du coup, bah, je sais pas, ça a duré très longtemps, cette discussion, où je faisais que pleurer, que pleurer, que pleurer. Et moi-même, j'étais très perdue parce que je m'identifiais pas comme homosexuelle, j'avais pas la réponse à toutes leurs questions. Moi, j'étais encore en recherche d'identité, enfin, j'étais encore jeune, je crois que j'avais 20 ans. Et j'ai... Ouais, j'étais paumée, quoi. Et du coup, le lendemain ou le surlendemain, mon père m'a demandé à revoir une discussion avec moi. Et on en a reparlé alors que ma mère était couchée. Il a un peu accusé ma mère d'être responsable de ça. Parce que à l'adolescence, j'avais eu des différends avec ma mère. Où on s'est... Enfin voilà, c'est l'adolescence, je pense. Et enfin, on s'engueulait beaucoup. Et du coup, il a remis ça sur le compte de ma mère. Enfin, il s'est posé la question si ça pouvait être ça. Je me rappelle plus tout ce qu'ils m'ont dit. Et je me rappelle que qu'il a pensé aussi au regard des gens. Il m'a dit parce qu'ils ont beaucoup de couples d'amis cathos, et ils m'ont dit une fois alors qu'on était ben les trois couples ensemble, on s'est posé la question si un jour un de nos enfants nous dit qu'il est homosexuel, comment on réagirait. Et j'ai dit bah t'avais répondu quoi? Il m'a dit bah j'avais pas su répondre. Et moi, je pense que c'était un peu comme moi. Ils s'imaginaient pas que c'était possible dans leur propre famille, en fait. Et du coup, je pense que c'est pour ça qu'ils sont tombés autant des nus, quoi. Parce qu'aussi, parce que j'étais peut-être des quatre la plus religieuse, entre guillemets. Enfin, j'étais quand même très fidèle dans ma foi, quoi. Donc, je pense qu'ils s'y attendaient, mais pas du tout. Ils étaient très fiers de moi jusque-là, je pense. Donc, grosse déception. Et à ce moment-là, moi, je suis dans des complexes de pensées extrêmes. Parce qu'en fait, je me dis, j'aime cette fille de tout mon cœur, mais ça fait souffrir ma famille. J'ai l'impression de devoir choisir entre ma copine et ma famille. J'en parle avec Aurélia, elle aussi, ça, forcément, ça la touche. Elle a pas envie que ça me fasse souffrir et que ça fasse souffrir ma famille, le fait que je sois avec elle. En même temps, elle a quand même envie de rester avec moi, c'est normal. Du coup, il y a un peu ce truc-là. Mes parents me demandent d'aller voir une psy. Aussi, à ce moment-là. Et ils me disent, on va te trouver un contact à Paris. Tu iras voir une psy. Ce qui est drôle, c'est qu'ils regardent du coup dans des contacts cathos, enfin dans une liste un peu là. Ils me prennent rendez-vous, ils me disent c'est nous qui payons, c'est nous qui te prenons rendez-vous, enfin voilà, dis-nous t'es dispo. Donc moi je voulais leur faire plaisir, leur montrer que je coopérais. Je savais que c'était pas ouf de me dire d'aller voir une psy parce que je savais que j'avais pas de problème. Enfin là sur le coup j'en avais besoin du coup parce que vis-à-vis de leur réaction ça m'avait vraiment vraiment beaucoup heurté et j'étais perdue. Et en fait ils m'ont donné le contact, c'était pas une psy quand je suis arrivée, c'était elle m'a dit ah mais moi je suis pas psy, je suis conseillère conjugale. Mais je peux quand même essayer de t'écouter et tout ça. Et je lui raconte, et en même temps, je sais que comme je raconte, j'ai peur que comme elle est dans le milieu catho, ça serve à rien et qu'elle me redise les mêmes choses que mes parents et que ça me fasse autant souffrir encore plus. Enfin voilà. Et je crois qu'on a dû faire 2 séances ou 3 séances maximum. Parce que en fait, ça a été très vite, j'ai déballé mon sac. M'a dit et elle, en fait elle me posait des questions qui m'ont fait comprendre que la réaction de mes parents n'était pas normale, enfin qu'ils n'étaient pas ok sur tous les points de vue. Elle me disait mais le fait que ton père te dise ça, trouve ça comment, qu'est-ce que ça te fait, etc. Et en fait, du coup, moi, en réalisant ce que ça me faisait, ce que... Je réalisais que, oui, c'était pas une réaction de parents juste aimants, qu'il y avait, pour une fois, un truc qui faisait extrêmement souffrir, quoi. Et du coup, à ce moment-là, j'ai quand même réalisé que, potentiellement, oui, en fait, c'était pas que moi qui étais en tort dans l'histoire, et qu'il y avait aussi un peu de la réaction de mes parents. Et en fait, cette conseillère conjugale qui est censée être un peu du côté de mes parents m'a complètement aidée à y voir plus clair. Elle m'a dit « Qu'est-ce qui vous rend heureuse aujourd'hui? Est-ce que c'est de quitter votre copine ?» J'étais là « Ben non !» Elle dit « Ben restez avec elle alors !» Enfin, faites vraiment ce qui pour vous vous semble bon pour votre bonheur. Et du coup, je suis vraiment restée avec ma copine, mais ça a été un moment de crise énorme pour moi, puis j'étais jeune, enfin c'était tout de suite hyper fort dans ma tête. C'est... Et oui, si ce qu'ils m'ont dit d'autres, mes parents, c'est surtout ne le raconte à personne dans la famille, qui est au courant. Et du coup, je l'avais dit à ce moment-là qu'à ma sœur. Avant mes parents, dans la famille, je l'avais dit qu'à ma sœur. Et ma sœur, elle avait eu, je lui avais dit un jour où on avait eu un petit moment que toutes les deux, où j'avais dormi chez elle, donc on avait dormi dans le même lit, et je lui avais raconté un soir comme ça, où on était toutes les deux, c'était un moment privilégié. Et elle avait posé beaucoup de questions, mais je l'avais pas sentie jugeante. Enfin, j'avais compris qu'elle avait envie de me comprendre. Et du coup, je la remercie beaucoup pour ce moment-là. Et elle avait une de ses amies qui était extrêmement sympa et avec qui j'avais déjà beaucoup parlé, et j'étais quand même pas mal en contact avec les amis de ma sœur, qui est ma grande sœur. Et du coup, elle avait une de ses amies qui était à l'époque en couple avec une fille. Je lui envoie des messages et elle me dit « Je suis à côté, je peux venir dans la rue, on peut se voir, on peut aller se balader si tu veux. » Du coup, je sors de chez moi. Parce que vraiment, chez mes parents... dans cette petite ville, il n'y a rien à faire le soir, enfin, je sortais jamais. Donc là, je sors de la maison et je vais me balader avec Nolwenn, et à qui je raconte tout et qui me soutient à ce moment-là, qui a été un soutien, qui me dit que c'est normal d'être comme ça, que c'est pas grave, que c'est pas que je suis pas que je fais pas souffrir pour le plaisir de mes parents. Enfin, je me rappelle pas de ce qu'elle m'a dit, mais je me rappelle qu'elle a été un gros soutien. Qu'à ce moment-là, je doute même de sa parole, parce que je me dis « Oui, mais comme elle est sortie avec une fille, c'est normal qu'elle soit de ce côté-là. » Et du coup, je pense que vraiment, ce qui m'a aidée, c'était d'avoir le soutien de quelqu'un qui était dans l'église, qui était croyante, qui était pratiquante, que son métier, c'était bon, pour le coup, c'était conseillère conjugale, mais... Et ben, en fait, c'est ça qui m'a aidée, à ce moment-là. Et direct, je me suis sentie beaucoup mieux, quoi. Je me suis un peu sentie libérée d'un poids. Et du coup, je me suis dit, bah, heureusement qu'ils m'ont envoyé voir une psy, qui se sont un peu gourés, qui ne sont pas tombés sur celle qu'ils voulaient, tant mieux. Mais j'ai eu un gros soulagement et j'ai pu vraiment continuer à vivre, du coup, ce que j'avais à vivre avec Aurélia, tranquillement, par la suite, quoi. Voilà. Et après, il m'avait dit, voilà, ne le dis pas à tes grands-mères, ne le dis pas à tes grands-pères, ne le dis pas à tes tantes. Et je sais pas ce qu'ils m'ont dit pour mes frères. Ils m'ont dit « Tu comptes le dire à tes frères, je crois. » Et j'ai dit « Oui. » Et je crois qu'ils ont pas marqué d'objection à ça, par contre. Du coup, j'ai dit... j'ai fait des coming out à mes frères. Mais mon petit frère, il s'en fout complètement. Mon grand frère, j'ai vu la surprise dans ses yeux, mais pareil, ça avait l'air OK. Enfin, voilà. Difficile de voir ce qu'ils ont traversé derrière. Mais ce qui m'avait beaucoup touchée quand je l'ai dit à mes parents, c'est que après, comme je leur avais dit que je l'avais déjà dit à ma sœur, ils sont allés la voir. Et mon père m'avait reparlé après. Et il m'avait dit, tu sais, tu l'as dit à ta sœur, mais tu te rends compte que tu lui as fait porter ce poids-là, toute seule, pendant tout ce temps, où elle était la seule à savoir. Et parce qu'il m'avait demandé comment elle l'avait pris, et j'avais dit, bah, je crois plutôt bien. Et ils m'ont dit, je crois qu'elle l'a pas du tout aussi bien pris que tu ne l'imagines. Il m'a dit une phrase comme ça. Et il me dit, je crois qu'au contraire, ça l'a beaucoup blessée. Moi, je suis tombée des nues parce que j'avais pas ressenti ça en lui disant. Et du coup, après ce coming out, c'est resté un tabou avec mes parents, j'en reparlais pas. Je parlais quand même d'Aurélia. Je continuais à parler d'elle. Et à un moment donné, on s'est séparés. J'ai pas dit parce que on en parlait pas, mais j'ai juste arrêté de parler d'elle. Et ma sœur non plus, j'en parlais pas du coup, parce que j'avais pas eu conscience de la blesser, j'ai pas eu envie de revenir vers elle en mode genre « Ah ben, je t'ai blessée, c'était trop dur pour moi, j'avais déjà vécu ça, j'avais pas envie d'avoir une discussion compliquée », et du coup, je suis pas revenue vers elle à ce moment-là. Et du coup, il y a eu toujours un tabou, mais moi j'avais pas envie que ce soit un tabou. Et j'essayais, avec mes parents, de leur parler de mes copines, parce que j'en ai eu d'autres après. Et à chaque fois que j'étais chez une de mes copines, et que je les avais au téléphone, et qui me demandait « T'es où, là, machin ?» Je voulais plus mentir. J'en avais marre de mentir, j'avais menti trop longtemps. Et c'était vraiment... C'est fou, parce que ça paraît rien de mentir comme ça, mais en fait, c'est épuisant. C'était épuisant, et c'est pour ça que j'ai fait mon coming out, et pour arrêter de mentir, et du coup, j'avais pas envie de revenir à cette étape où je devais mentir. Donc du coup, je leur disais « Bah, je suis chez ma copine. » Voilà. Et ils posaient pas de questions. Dès que je parlais de ça, dès que je mentionnais ma copine, enfin, ils se doutaient, je pense que c'était une petite amie qu'il y avait derrière. Et du coup, ils posaient pas, ah, t'as une copine. Ils rebondissaient jamais sur les sujets, ils rebondissaient jamais sur, ah, elle s'appelle comment, ah, c'est qui, ah, t'es où, ah, t'habites où, machin. Dès que je mentionnais ça, ils changeaient de sujet. Il y avait, parfois, quand c'était ma mère au téléphone, je me rappelle, il y avait un blanc. Puis elle changeait de sujet. Et c'était très bizarre, quoi. Ouais. C'était, assez particulier. Et du coup, c'est que très tard. Alors là, j'ai fait mon coming out à 20 ans et je crois que c'est peut-être 6 ou 8 ans plus tard que j'ai décidé d'en reparler avec eux. Et je suis allée chez eux et j'ai dit « Bon, mes parents, j'ai envie de savoir où vous en êtes vis-à-vis de mon homosexualité. » Parce que je n'ai aucune idée de ce que ça vous fait encore aujourd'hui. Est-ce que ça vous blesse toujours autant? En même temps, comme à l'époque, quand j'avais fait mon coming out, j'avais un peu dit, je sais pas si je suis lesbienne, je sais pas si je vais un jour aimer un homme, je ne me l'interdis pas du tout. Alors, ils avaient quand même espoir, du coup, que ça change. Et comme ça, je n'ai fait que aimer des femmes par la suite. Et genre, vraiment, je ne suis retombée amoureuse d'un homme jamais. Genre, vraiment plus jamais. Du coup, et ça ne m'attire vraiment pas. Enfin, mais évidemment, je ne me l'interdis toujours pas. Mais voilà, ça n'est pas arrivé. Et du coup, j'ai pas envie qu'ils aient l'espoir, parce que je me dis qu'il y a peu de chances pour que ça arrive. Et du coup, je voulais en reparler pour aussi acter le fait que ça n'est pas changé. Et c'est pour ça que je continue à parler de ma copine par moment. Même si du coup, par moment, c'était pas la même, mais voilà. Ils savaient pas, ils demandaient pas, voilà. Et donc là, ça faisait un moment donné, ils m'ont dit « Ah, mais comment t'as déménagé ?» Et tout ça, je dis « Bah... c'est la mère de ma copine qui est venue nous aider, qui a pris un camion, qui machin. » Et du coup, je voulais aussi montrer qu'il y avait un investissement dans ma vie, des parents, des personnes avec qui j'étais. Enfin, il y avait des personnes qui aidaient aussi là-dedans, quoi. Enfin, qui faisaient partie de ma vie. Enfin, et donc, même en entendant ça, ils disaient « Ah oui, d'accord. » Et ils rebondissaient jamais. Donc là, je les ai pris entre quatre yeux et j'ai dit « Voilà. » Même ça, ça m'a demandé un courage immense, en fait, de retourner sur le sujet. Pendant toutes ces années, j'ai pas voulu parce que vraiment mon coming out m'avait traumatisée et j'étais en mode genre, c'est trop horrible, voilà. Vraiment, réaborder le sujet, mais c'était difficile, j'arrivais pas à revenir sur le tapis. À tous les moments, je me disais, ah, peut-être là je le demande, là je le demande, là je trouve le moment. C'était trop dur et ça m'a demandé un courage, je tremblais à l'intérieur et là j'ai dit, bon, vous en êtes où vis-à-vis de mon homosexualité? Comment vous le vivez? Est-ce que c'est toujours aussi difficile? Et là, ils me disent, je m'attendais pas du tout à ça, mais mon père, il dit, ça a beaucoup cheminé dans nos têtes. Et ma mère dit pareil. Il dit, oui, oui, c'est vrai, ça a beaucoup cheminé. C'est bien que tu abordes le sujet parce qu'on avait envie d'en parler avec toi. Et mon père reconnaît que j'ai le courage de le faire et que eux ne l'ont pas eu. Et il me dit, j'avais envie d'en parler. Moi, c'était vraiment le dernier jour de mon séjour que j'en parle, la dernière soirée. Donc, s'ils avaient vraiment voulu en parler, ils avaient eu tout le temps. Mais là, c'était le dernier moment possible. Donc voilà, ils l'avaient pas fait. Mais en même temps, ça me réconforte qu'il ait eu dans l'idée, l'envie au moins de m'en parler. Mais comme quoi, ça demande du courage parce qu'ils l'ont pas fait. Et du coup, je suis contente qu'ils reconnaissent qu'un endroit, il y a du courage quand même derrière ça. Et ils me disent, merci d'en parler, du coup, nous, ça a cheminé, on serait prête à rencontrer ta copine. Donc, ils avaient capté, c'est bon que j'avais une copine, tout ça. Donc, moi, là, je tombe des nues, je suis trop contente. J'imaginais pas ça du tout. Pendant toutes ces années, je me disais, faut que je leur en parle, parce que si je leur en parle pas, ils vont jamais progresser. Enfin, c'est pas progresser, mais c'est genre évoluer dans leur manière de penser. Il y a un peu ce truc où j'ai lu beaucoup de témoignages et beaucoup de gens qui disaient « Alors moi, je leur ai parlé, je leur ai envoyé des trucs à lire, je les ai fait taffer et tout, et du coup, maintenant, c'est bon. Enfin, voilà, ça a changé. » Et j'avais beaucoup de récits de parents qui avaient eu des réactions violentes à des coming out et qui avaient changé d'avis et qui, plus tard, accompagnaient de carrément et c'était plus du tout un problème. Et moi, c'était mon rêve. Et je me disais « Oui, mais moi, je fais pas ce travail, je fais pas, je les nourris pas d'informations, contraire à ce qu'ils ont tous les jours, je les aide pas à progresser, à avoir d'autres visions, et du coup, ils vont jamais changer d'avis. » Donc, c'est ça qui m'a poussée à y aller, mais il faut avoir l'énergie aussi de faire ça. Donc, je crois que j'ai choisi un moment donné où j'avais aussi plus d'énergie et où j'avais aussi beaucoup plus cheminé aussi de mon côté. Et du coup, ils me disent que voilà, qu'ils seraient d'accord pour la rencontrer, et on revient sur mon coming out, et je leur dis qu'à ce moment-là, pour moi, ça avait été très violent. C'est la première fois que moi j'exprime mon ressenti, parce que eux, ils ont toujours exprimé leur souffrance. Mon père m'a beaucoup dit combien il avait souffert, il me disait, il était un stit, et il me disait, après que t'aies dit ça, tous les jours, quand je rentrais de l'école, tous les jours sur le chemin du retour, je pleurais. Je faisais que pleurer. Et il me racontait ça. Donc il me racontait sa souffrance. Et il racontait la souffrance de ma mère, comment elle souffrait aussi, comment c'était dur pour eux. Mais moi, j'ai jamais raconté comment ça avait été dur pour moi, leur réaction. Et ça a été, mais extrêmement difficile. Et du coup, pour la première fois, je leur dis, en fait, ça m'a fait ça, quoi. Et c'est la première fois que, du coup, ils vont s'excuser. C'est ma mère qui s'excuse en premier. Et mon père, ça vient beaucoup plus tard dans la discussion. Mais ma mère s'excuse très vite de leur réaction à ce moment-là. Et ça me touche beaucoup. Qu'ils aient réalisé ça. Que eux aussi, de leur côté, il y avait eu quelque chose de violent. Parce qu'ils m'avaient reproché de l'avoir sorti d'un coup comme ça. Alors que moi, j'avais eu l'impression d'avoir organisé le truc. Genre, je vous la présente avant. C'est quelqu'un de chouette. Après, je vous dis, bon, faut que je vous parle. Bon, voilà, je sors avec Aurélia. Je leur ai pas dit tout de suite, genre, je suis homosexuelle, comme ça. Mais eux, ils ont l'impression que c'était ça. Et en fait, du coup, je dis, de quelle manière ça aurait été bien de le dire? Enfin, finalement, je pense qu'il n'y a pas de meilleure manière. Je me suis retournée dans le cerveau. C'est vrai, peut-être c'était violent, comment je l'ai dit. En fait, je me dis, franchement, je pense que c'était violent uniquement parce que c'était eux qui le recevaient de manière violente, mais j'ai pas dit les choses de manière violente, quoi. Enfin, je crois pas. Et du coup, premières excuses que je reçois, et ça me fait beaucoup de bien. Et du coup, l'été qui a suivi cette discussion, j'ai pu leur présenter ma copine Hélène, qui était ma copine à l'époque. Ils la reçoivent très bien, ils ont pas de questions déplacées, donc j'avais un peu peur qu'il y ait eu des trucs un peu chelous et tout. Mais ça se passe hyper bien. Mais par contre, ils me redisent, par contre, on veut vraiment pas que tu le dises à tes grands-mères. Entre-temps, mes grands-pères sont morts, donc on veut pas que tu le dises à tes grands-mères, toujours pas à tes tantes. Mais ils ont vraiment peur pour leur mère, chacun. C'est ça qui m'a le plus surprise, c'est que ils m'ont redit ce truc-là, qui m'avait déjà beaucoup incité la première fois, et ça n'a pas changé dans leur esprit. Et ma mère, elle est vraiment là... Ah oui, vraiment, à maman, vraiment, je veux pas que tu lui dises. Après, ils ont dit, peut-être, nous, on projette des choses sur eux et ils auront pas du tout, enfin, sur elles, elles auront peut-être pas du tout la réaction qu'on imagine, mais non, on veut vraiment les préserver. Clairement, mon père, il dit, tu vas la tuer, si tu lui dis. Donc, à propos de sa mère. Donc, moi, j'ai très peur, j'ai pas du tout envie de tuer mes grands-mères, je les aime, donc, je me tais. Et en fait, un jour, ma grand-mère, au téléphone, me dit, alors qu'elle ne m'a jamais posé la question, elle me dit, « Et alors, t'as un amoureux, ou pas? T'es toute seule? » Et là, à ce moment-là, je suis dans la maison des parents de ma copine, à ce moment-là. Et je suis en mode genre, « Non, non. » non, t'as personne. Non, non, t'es célibataire. Et du coup, là, ce qui est trop drôle, c'est qu'elle me dit, et tu préfères être toute seule? Si t'es bien toute seule, c'est bien, hein, il faut faire ce qu'on a envie, et puis t'as raison, hein, parce qu'ils sont chiants, les mecs. Ou elle me dit un truc comme ça. Et du coup, elle me dit des fois c'est mieux, hein, des fois ça vaut mieux. Et du coup, là, je me dis, mais je suis en train de la tromper complètement. Parce qu'elle, elle a envie d'avoir une discussion intime avec moi. Et je sens que c'est pas juste, genre, la curiosité de « est-ce que t'as un amoureux ?» C'était genre, je m'intéresse à ta vie intime et j'ai envie d'en parler avec toi. Et en fait, ça change des conversations superflues. Et moi, j'ai vraiment envie de créer ce lien avec elle. Elle me tend une perche. Je me suis dit, là, ça aurait été l'occasion de lui dire. Et je la loupe parce que j'ai cet interdit au-dessus de ma tête. Et que j'ai trop peur de sa réaction aussi, quoi. Mais je me dis, si mes parents m'avaient pas dit ça, à ce moment-là, au téléphone, je lui aurais dit. Et du coup, j'en parle à ma copine, qui me dit, mais on s'en fout, faut que tu lui dises si t'as envie de lui dire. Enfin, je demande des avis autour de moi. C'est vraiment le truc, et ça, c'est récent, ça. C'est passé il y a pas longtemps. Et je demande vraiment autour de moi, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Est-ce qu'il faut que je demande à mes parents l'autorisation de lui dire? Est-ce qu'il faut que je lui dise sans en parler à mes parents? Est-ce qu'il faut que je lui dise ou pas lui dire? Ben voilà. Et mes amis me disent que, bah, ouais, dans l'ensemble, c'est plutôt, bah, franchement, ça a l'air de te prendre la tête, c'est qu'il faut que tu lui dises, quoi. Là, j'ai ma copine qui me dit, peut-être t'as besoin d'un allié dans ta famille, et cet allié, ça pourrait être, par exemple, ta sœur ou ton cousin. J'en parle à mon cousin et lui, enfin, je vois que c'est pas juste quelqu'un qui vient entendre et être ok avec ton discours, c'est quelqu'un qui vient se placer en allié direct. Il me dit si t'as besoin, enfin, il comprend, il sait comment sont mes parents, il sait comment est sa mère. Il me dit, il me dit que c'est abusé, que ça existe encore, ça. Je sens que si j'ai besoin, je peux l'appeler. Il me le dit. Et il me dit, voilà, si t'as besoin d'un soutien dans la famille, d'une écoute et tout, tu peux m'appeler. Et du coup, au moment où j'hésite à le dire à ma grand-mère, qui est aussi du coup sa grand-mère à lui, je l'appelle et je lui demande son avis. Et je lui dis, est-ce que à ton avis, ça va vraiment lui faire autant de mal que le disent les parents? Et il me dit, bah, en vrai, je pense qu'elle est plus ouverte qu'on croit. Après, je peux pas du tout anticiper sa réaction, peut-être que ça va beaucoup la blesser, j'en sais rien. Mais il me dit... En tout cas, t'as pas besoin de dire à tes parents que tu vas lui dire. C'est ta vie. Je vois pas pourquoi ça les concerne. C'est ton intimité. Ta vie, tu le dis à qui tu veux. En tout cas, si ça se passe mal, moi, je peux être là aussi pour faire le lien avec tes parents ou avec notre grand-mère pour venir te soutenir, tout ça. Donc, ça m'aide beaucoup. Et il me redit, en vrai, je pense que aussi, enfin, tu vois, elle devient vieille et tout, et je pense qu'elle a aussi lâché la pression sur plein de trucs. Enfin, il y a un peu un truc où, aussi en vieillissant, je sais pas, il y a un truc qui sent un peu plus ouvert.
Tu peux lâcher les normes sociales en partie.
Un peu, ouais. Après, j'appelle ma sœur, après avoir appelé mon cousin, pour lui demander son avis, elle aussi, et aussi pour la mettre dans la confidence que j'ai envie de faire ça.
Vous aviez reparlé entre-temps avec ta sœur de est-ce que ça l'avait blessée autant que tes parents l'avaient dit ou...
Ah oui, oui. Oui, c'est vrai. En fait, il y a eu le moment où j'ai décidé d'en reparler à mes parents, où on avait eu cette deuxième discussion, où ils ont dit qu'ils étaient OK pour voir Hélène et tout ça. Ma sœur m'envoie un message quand je suis dans le train de retour pour Paris, et elle me dit « Les parents m'ont dit qu'ils avaient parlé avec toi, qu'ils avaient une grosse discussion. Je voulais que tu saches que moi, je te soutiens carrément, ça a jamais été un problème pour moi. Et je lui dis, parce que j'avais exprimé à mes parents comme quoi c'était dur que ce soit un tabou, qu'on n'en parle jamais, que c'était dur. Parce que j'avais l'impression de ne pas pouvoir être moi entièrement quand j'étais avec eux. Que j'avais toujours une partie qui était quand même une énorme partie de moi, que je pouvais pas leur raconter. Et que du coup, j'avais l'impression qu'ils me connaissaient qu'à moitié. Et que c'est ça qui me faisait souffrir. Et du coup, avec ma sœur, c'était pareil. Et en fait, j'ai exprimé que je pouvais pas en parler comme ça à ma famille et que même avec ma sœur, voilà. Et je pense qu'ils ont un peu dit ça à ma sœur. Et du coup, elle m'a dit, mais tu peux en parler avec moi et tout ça. Et moi, je lui ai envoyé un message, je lui ai dit, moi, j'ai cru que ça te posait problème. Comme, pareil, c'était la même attitude que mes parents. Quand je mentionnais ma copine, elle évitait le sujet. Et je lui disais, chaque fois que je parlais du sujet, tu passais à autre chose, du coup, je pensais que c'était quelque chose dont tu voulais pas parler. Elle m'a dit non, au contraire, en fait, je pensais que c'était toi qui... En fait, comme je savais que ça avait été difficile avec les parents, Je me suis dit, c'est un sujet sensible que, dont tu n'auras sûrement pas envie de parler. Et du coup, j'ai préféré ne pas aborder le sujet parce que je savais que c'était sensible et que c'était douloureux et que ça avait été dur avec les parents. Et je trouve ça dommage qu'elle ait vu les choses comme ça. Parce que je me suis dit, elle aurait pu... Enfin, si moi j'aborde le sujet, c'est que... Voilà, je l'aborde. Après, je l'aborde de loin en parlant comme ça, mais si j'avais vraiment pas envie d'en parler, je pense que j'en aurais pas du tout parlé. Donc voilà, s'il y a des alliés quelque part, des frères et des sœurs qui entendent ça, et si la personne, elle aborde le sujet, c'est qu'elle a envie d'en parler, et que enfin c'est des petites perches qu'elle tend, parce que voilà. Et au contraire, je pense qu'on est très heureuse de pouvoir parler de ça à des gens qui sont OK avec ça. Surtout au sein de la famille, ça a été hyper important, cette histoire d'allié. Parce que du coup, je savais que bah, quand j'ai appelé du coup ma sœur après pour lui dire ça, pareil, elle m'a dit c'est ma sœur qui m'a dit pas besoin d'en parler aux parents, c'est ta vie et tout ça. Mon cousin m'avait dit tu fais comme tu veux. Oui, peut-être que c'est mieux de les prévenir, mais enfin voilà, c'est toi qui vois. Et elle me dit moi je pense que elle est ouverte aussi en vrai. Voilà, c'est toi qui vois. Et donc, j'avais ces deux avis-là, hein, qui avaient l'air de dire que c'était pas si terrible, quoi. Mais en même temps, c'est normal, ils peuvent pas parler à sa place. Et donc, je fais clairement un retour à Lyon, où j'ai prévu d'essayer de me retrouver seule avec ma grand-mère pour lui dire. C'est clairement mon objectif. Et ma grand-mère, elle m'invite chez elle. On va chez elle, et là, je suis seule avec elle, chez elle. Et elle commence à me parler de plein de sujets hyper profonds, de la famille, de choses qu'elle parle pas souvent. Et je me dis, waouh, c'est déjà... c'est propice, c'est un terrain propice, on est dans une discussion profonde, intéressante, on survole pas les sujets, école, trucs de d'habitude, on va dans le passé, elle me parle de la guerre, enfin elle me parle de plein de trucs intéressants. Mais après je sais pas comment je vais amener mon homosexualité sur le tapis, quoi, dans tout ça. Du coup, on commence à parler de mon cousin, de sa copine, donc là on rentre dans le sujet amoureux. Elle me dit, oh, elle est vraiment super sa copine, ça. Et là, je me dis, il faut qu'elle me repose la question. Et dans ma tête, je suis là, repose-moi la question. Et elle me dit, et toi, du coup, pas d'amoureux, hein. Et elle me repose la question, alors que franchement, ça faisait pas si longtemps qu'elle me l'avait posée au téléphone.
J'en reste douté de quelque chose, ou enfin, inconsciemment, mais inconsciemment.
Peut-être. Mais en tout cas, elle s'en doutait pas. Et du coup, je lui dis, non, j'ai pas un amoureux, mais j'ai une amoureuse, c'est une fille. Sa réaction, c'est vraiment ah d'accord, écoute, si bien. Enfin, c'est un peu lambda, quoi. Et je dis, d'un coup, je me mets à pleurer, je dis, mais j'avais tellement peur de ta réaction. Et elle me dit, tu sais, hein, en gros, que l'on connaît, qu'il y en a deux dans son village, la maison juste en bas. Elle me dit, ça fait les deux mamies, là, ça fait je sais pas combien de temps qu'elles vivent ensemble. Non, mais moi, tu sais, je suis ouverte. Alors que faut savoir que ma grand-mère, c'est pareil, elle est hyper religieuse. Elle est toujours en train de me dire, je prie pour toi. Est-ce que tu pries cette sainte ou cette personne pour prendre soin de toi, machin. Elle fait beaucoup des liens avec la religion tout le temps. J'étais là, waouh. Ok. Donc ça avait pas l'air si grave. Je lui dis, je lui dis, j'avais trop peur de te le dire parce que les parents, ils m'interdisaient de te le dire et tout ça. Elle me dit, non, mais faut pas pleurer pour ça. Et donc voilà, ça s'est hyper bien passé. Elle a pas été curieuse d'en savoir plus sur ma copine. Vraiment, c'était déjà au-delà de mes espérances. Elle n'a pas eu une mauvaise réaction, quoi. Elle a vraiment été juste en mode... Ouais, d'accord, monsieur. Elle m'a dit, le principal, voilà, c'est d'être heureuse. Donc, je pense qu'elle a conscience que, aussi, avec les hommes, on n'est pas toujours heureuse. Donc, je sais pas, il y avait un truc... très beau dans cette discussion qui a duré quand même longtemps où j'ai réussi à lui dire et j'ai toujours pas dit à mes parents que je lui avais dit. Voilà. Mais après, j'ai dit à ma sœur et à mon cousin comment elle avait réagi et ils étaient très contents. Et en fait, au moment de lui dire, vraiment, j'ai repensé à mon cousin et à ma sœur, à ce qu'ils m'avaient dit, et ça m'a aidée à le sortir. Mais parce que j'étais là, j'étais sur place, j'étais avec elle, et je flippais. J'étais liquéfiée. Et je n'osais pas aborder le sujet, je me disais, mais non, mais oh, si, imagine, elle, je sais pas, elle angoisse devant toi, qu'est-ce que tu fais, si elle est en colère, j'avais très peur d'être rejetée, très peur de plus être aimée par ma grand-mère. Ouais, j'avais très peur du rejet, quoi, de la famille. On a une famille quand même assez soudée, avec beaucoup d'amour, et du coup, j'avais peur que ça casse tout ça, que je sais qu'elle m'aime beaucoup. Et c'est un peu ce que m'ont rappelé mon cousin et ma sœur. Ils m'ont dit, mais en fait, je crois qu'elle t'aime beaucoup, et qu'en fait, ça empêcherait pas cet amour-là d'exister. Et je crois que c'est un peu ce dont j'avais peur, c'était que d'un coup, elle me voit autrement, qu'elle se dise qu'en fait, pareil, que je l'avais trahi. J'ai très peur que ce truc de trahison que mes parents ont ressenti, qu'elle le ressente aussi. Parce que, voilà, elle est quand même quelqu'un qui me soutient. Donc pour l'instant, dans ma famille, il reste encore une grand-mère à qui je l'ai pas dit, et qui habite avec mes parents, donc c'est un peu compliqué. Pour l'instant. Et mes tantes, qui savent toujours pas. Mais voilà, les coming out familiaux, en tout cas.
Oh, quelle aventure.
Ouais.
Ça m'émeut vachement de t'entendre raconter cette histoire. Y compris les soutiens, en fait. Enfin, c'est cette chance que t'as eue de tomber sur cette conseillère conjugale improbable.
Mmh. Oui. Qui à la base, je pensais pas du tout, serait un soutien. Et puis vraiment, cette histoire d'allié, j'en avais partout dans mes amis. Mais dans ma famille, je me sentais trop seule. Et le fait en plus, c'est pareil, avec mon cousin, on s'adore. Mais on parle pas beaucoup de trucs perso. Du coup, c'est toujours difficile de l'appeler pour lui parler d'un truc comme ça. Mais direct, il est très vite à l'écoute et très vite ouvert. Et je me dis, mais pourquoi j'ai autant peur de prendre mon téléphone et de lui en parler? Vraiment. Et je trouve que toutes ces histoires m'ont aussi rapproché énormément de lui et de ma sœur. Et qu'en fait, ça fait que justement, avec ma sœur, on a des discussions hyper profondes, on est de plus en plus proches. Et du coup, je trouve que c'est en plus bénéfique pour notre relation à nous deux de parler de tout ça, quoi. Donc, d'où l'importance des alliés, quoi.
Et des mots.
Et des mots. Et de parler, oui, de beaucoup en parler, ouais. Ouais, ouais. Complètement. Mes parents, en ce moment, je leur ai enfin envoyé la semaine dernière un podcast que je voulais leur faire écouter. C'est un podcast où ils ont interviewé un prêtre qui parle de l'homosexualité. Ils ont interviewé un imam dans un autre épisode et un rabbin dans un autre épisode. Donc il y a tous ces trucs autour de la religion, de quelle est la position de la religion vis-à-vis de l'homosexualité, qu'est-ce que disent vraiment les textes, etc. Et ça, je me suis dit, ah, ça serait bien que j'envoie à mes parents pour qu'ils aient aussi une écoute de quelqu'un de religieux qui leur dit, en fait, vraiment, le principal, c'est quand même d'accueillir les gens, de les aimer, de pas les rejeter. Et que aussi la position de l'Église évolue, même si c'est très lent, très très lent. À aucun moment donné, il y a des injonctions au rejet, quoi. Donc c'est déjà une base, quoi. Et je me dis, ça peut être intéressant d'en débattre avec eux et d'amener le sujet encore sur le tapis. Mais c'est pareil, ça m'a demandé de l'effort d'envoyer ça. Et mon père m'a répondu dans les heures qui ont suivi, en mode, genre, j'ai écouté le podcast, j'ai aussi écouté un autre épisode. Mais bien sûr, on en parlera quand on se verra. Donc je suis très contente parce que j'ai envie de parler de ça, que quand on va se voir, va peut-être falloir créer un moment pour faire ça. C'est très touchant, en fait, de se dire, ah oui, j'ai aussi cette chance-là grâce à d'autres personnes qui ont travaillé avant, qui sont battues avant pour ces droits-là. L'histoire même de d'où ça vient, cette homophobie, pourquoi, comment on a eu les droits qu'on a aujourd'hui, comment aujourd'hui c'est déjà moins homophobe qu'avant, mais ça le reste encore. Et qui s'est battu pour nous et du coup et oui et je pense que j'ai eu toute une période voilà où j'étais homophobe, j'étais transphobe, j'aime pas trop mon moi d'avant, enfin j'ai eu une évolution très lente, j'étais beaucoup ignorante Je connaissais peu de choses. Et voilà, au fur et à mesure, au début, je me rappelle que je me détestais quand j'ai appris que j'étais lesbienne. Je détestais être lesbienne, j'espérais un jour aimer les garçons. Je me rappelle m'être auto-flagellée dans ma tête en mode genre, mais t'es trop nulle d'être comme ça, pourquoi t'es comme ça, c'est horrible. J'espère qu'un jour je serai normale, que j'aimerai les garçons, parce que c'est juste trop compliqué, trop chiant. Tu vis de l'homophobie dans la rue, c'est des trucs débiles, mais tu te fais cracher dessus, tu te tiens main dans la main dans des endroits, d'autres tu le fais pas. Des endroits, tu te tiens main dans la main et tu reçois des propositions de mecs qui veulent coucher avec les deux. Et il y a beaucoup, beaucoup de trucs comme ça qui font que tu te dis, mais c'est compliqué, c'est chiant avec la famille, c'est chiant. Et moi, j'avais vraiment dit ça à mes parents. J'avais dit, parce qu'ils m'ont clairement dit que c'était un choix de ma part, et je leur avais clairement dit, mais si vraiment, vous avez vu comment vous m'avez éduqué, vous avez vu comment, moi, j'ai été à fond dans votre éducation, comment, à quel moment j'aurais eu envie d'être lesbienne? À quel moment j'aurais eu envie d'être comme ça? Pourquoi j'aurais choisi? Comment j'aurais pu choisir, faire ce choix-là, alors que déjà, je savais même pas que c'était une possibilité. Donc vraiment, j'étais en mode genre, mais comment j'aurais pu le choisir? Et vraiment, si je voudrais choisir aujourd'hui, je voudrais être hétéro. Je voudrais être normale, je voudrais qu'on me pose pas de questions. Je voudrais pas vivre ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, ça me fait trop souffrir. Ça vous fait souffrir, j'ai pas envie de vous faire souffrir. Genre, vraiment, j'aurais pas choisi ça. Si j'avais eu le choix, j'aurais clairement choisi d'être hétéro. Aujourd'hui, j'ai un tout autre discours. Heureusement que je suis lesbienne, merci. Je suis trop contente d'être lesbienne. Je suis très ravie de ça. Et je suis très fière aussi de l'être.
Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu. Et je vous retrouve bientôt avec une nouvelle interview. D'ici là, n'hésitez pas à me contacter si vous avez envie d'être interviewée. Et à faire connaître ce podcast autour de vous, en parlant, en écrivant un commentaire ou en lui attribuant tout un tas d'étoiles. Vous pouvez dorénavant aussi nous retrouver sur Facebook ou sur Instagram @comingincomingout. À bientôt!